France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Et ce matin, hommage à un musicien qui a beaucoup compté dans l'histoire de la radio, de la musique légère et de l'opérette, Paul Bonneau, compositeur et chef d'orchestre disparu en 1995. Il nous a laissé quantité d'enregistrements conservés par son fils Christian Bonneau avec nous ce matin pour évoquer ce père indissociable des grandes heures du Châtelet et de l'ORTF. En fin d'émission, Martin Péné nous proposera quelques archives de Juliette Gréco. Mais pour commencer, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment des Gaulois, savez-vous au moins que nos ancêtres dansaient la Java?
Poilu, barbu, vêtu de peau de bête, il bravait la tempête. Tu le, tu l'as, c'était la loi des Gaulois. Il prenait la route pour chasser le mammouth et courir le guilledou. Il coupait le gui, mais à propos, où coupait-il donc le hou? La chasse finie, les hommes réunis plongeaient sur la nourriture. Au petit Gilles Péric, qui était rachitique, on jetait les épluchures. Poilu, barbu, le druide à noble tête, arrivait pour la quête. Paye pas, planque-toi, c'était la loi des Gaulois. Quand il guerroyait, même les feuilles tremblaient, les femmes se jetaient à leurs pieds. Mais un beau matin, un sombre devin leur a prédit, ça va barder. Tout près des menhirs, la troupe en délire, Astic allait faire de lance. Vercingétorix, un dur incaïde, étudia la carte de France. Bardé, casqué, un Jules nommé César arriva sur son char. Il leur a dit, veni, veni, vidi, vici. On se tira les tifs, on se tapa sur le pif, mais on vit bientôt les légions. Des Romains pompettes qu'aimaient la piquette se coller dans la vase de Soissons. La Gaule manque de bras, dit un chef gaulois, il faut retrousser nos manches. Ils firent des maisons, ils firent même les ponts, sauf le samedi et le dimanche. Poilu, barbu, il guinchait le samedi au bal sur pilotis. Flânant, crânant, on causait entre poteaux en regardant les Gauloises jouer les pompadours. Et la Gaule en dimanche chantait à plein gosier en trinquant à l'amour. L'amour.
Voilà, c'était au tout début des années 60, l'excellent fantaisiste Rissé Barrier. Oh, comme je le regrette, j'avais eu le plaisir de le recevoir ici. C'était l'un de ses premiers succès, La Java des Gaulois, une chanson qu'il avait écrite, comme beaucoup d'autres, avec Bernard Leloup, ici accompagné par l'orchestre de Jean-Claude Vanier. Et à propos d'orchestre, je vous rappelle que nous allons parler dans un instant de Paul Bonneau avec mon invité Christian Bonneau. l'irrésistible orchestre de Xavier Cugat en 1952 dans ce Mambo numéro 8 de Pérez Prado.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Alors, je ne sais pas d'ailleurs si l'homme dont nous allons parler ce matin aimait ce qu'on appelait alors la musique typique, mais le fait est qu'il a touché à tous les genres de musique. C'est l'une des grandes figures de ce qu'on appelait ici la musique légère. Après la Seconde Guerre mondiale, il a dirigé la musique légère à la Maison de la Radio. Il a aussi été associé aux grandes heures de l'opérette. Nous évoquons ce matin l'histoire de Paul Bonneau avec son fils Christian Bonneau.
J'ai composé ça en 1944, juste au moment où j'ai commencé à faire des émissions à la radio. Westminster, c'est un quartier de Londres dont il subsiste l'église du XIIIe siècle, renfermant les tombeaux des rois et des grands hommes de l'Angleterre. Et ça m'a passionné, et j'ai pris le thème que l'on connaît, et puis j'en ai fait cette musique, qui a été programmée un petit peu partout dans le monde entier.
Bonjour Christian Bonneau.
Bonjour Benoît, c'est très, très émouvant d'entendre la voix de mon père.
La voix de votre
la musique,
père.
Bon, après son décès en 95, j'ai mis du temps à écouter sa musique. Alors quand ta voix déboule, c'est fort.
Pourtant c'est une musique en même temps heureuse, joyeuse, lumineuse, comme beaucoup de celles qu'il a composées et dirigées tout au long de sa vie. Paul Bonneau, ce carillon de Westminster, qui était un de ses grands succès. Hein,
oui. Et on entend à la fin, enfin, tout au long du morceau, à la harpe, la grande harpiste Lily Laskin.
Voilà. Alors, parce que en fait, Paul Bonneau, qui connaissait tout le monde musical parisien, avait une bande d'amis qui, au fond, le rejoignaient régulièrement pour les enregistrements. Ah, en premier lieu, Lily Laskin.
Laskin, toujours à la harpe, Maurice André à la trompette, Jacques Dieval au piano et Roger Bourdin à la flûte.
Et puis, c'est quelle jolie compagnie.
Que des bons musiciens, oui.
Alors, ce carillon de Westminster, comme le disait votre père à l'instant, oui. il a été joué dans le monde entier. Ah, oui, il a été enregistré plusieurs fois.
Oui,
là, c'était un enregistrement du Grand Orchestre de Paris, une formation de circonstances, peut-être, du début des années 60, parmi beaucoup d'autres. Mais alors, si on devait, Christian Bonneau, de quelques mots pour commencer, résumer ce qu'a été votre père, vous diriez quoi, compositeur et chef d'orchestre?
Compositeur, chef d'orchestre. Je voudrais ouvrir une parenthèse, c'est que je suis son fils unique et je suis héritier, le seul, donc. Et je connais par cœur sa carrière. Pourquoi ? Là, c'est une petite corde sensible. Mes parents se sont séparés en 58, j'avais 10 ans. Et au terme du contrat de divorce, c'est mon père qui a eu ma garde, ce qui était extrêmement rare. Donc, j'ai été scotché à sa carrière. Et donc, je peux en parler à fond.
Quoi. Mais alors, résumez-nous, comme je vous le demande, en quelques mots, ce qu'a représenté Paul Bonneau.
Pour moi ?
Pour la musique.
Pour la musique, c'était... Des compositeurs de sa génération s'accordent à dire qu'il était le chef de file de la musique symphonique légère à la française.
Voilà.
Il était au conservatoire avec Henri Dutilleux, avec Henri Betti, etc. Et bon, il est très polyvalent.
Et aussi, comme compositeur, comme chef d'orchestre et comme orchestrateur, on le verra, de
beaucoup.
Quantité de succès,
à
commencer par ceux du Châtelet, de
bien
Luis Mariano, etc.
Tout à fait, oui.
Alors, vous venez nous dire comment vous avez commencé à vous passionner pour votre père et pour son œuvre, Christian Bonneau, et on le comprend très bien. Est-ce que vous avez eu, on imagine toujours, je ne sais pas, dans les familles, il y a des crises d'adolescence, vous avez dû vous passionner pour le rock ou des choses de votre génération. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes éloigné ou opposé un peu au genre de musique que représentait votre père?
Alors, éloigné, non. Elle est restée aussi forte, mais se sont adjoints.
Voilà,
d'autres styles de musique.
Et lui, il les aimait aussi. Il s'y intéressait.
Mon père appréciait les Beatles par respect.
Ouais.
Moi, les Rolling Stones. Moi aussi, par contre, beaucoup. Mais les Beatles aussi. Et même Michael Jackson, l'album Thriller que Quincy Jones a orchestré, c'était respect et il l'écoutait avec intérêt. Donc
Donc il avait cette curiosité.
Ah oui absolument.
Aussi,
cette ouverture, oui.
Voilà. Et vous avez perçu très tôt l'importance qu'il avait, lui, dans le monde musical.
Je suis né dans cette ambiance familiale avec mon père Paul Bonneau et ma mère pianiste Jacqueline Bonneau, qui est devenue ensuite Jacqueline Robin Bonneau, Robin. Et ce qui m'a éveillé considérablement à la musique, c'est quand j'avais 10-12 ans, c'est au moment de la création du groupe Les Djinns.
Oui, on en reparlera
Voilà, c'est ça. Mais c'est là vraiment où je me suis éveillé au sens de l'harmonie, etc. Voilà.
Voilà, avec des très très beaux arrangements d'ailleurs pour Les Djinns, dont on a déjà parlé dans cette émission. On y revient tout à l'heure, mais vous avez parlé de votre père et de votre mère. Et bien votre mère, justement, Jacqueline Bonneau, Robin. On va la retrouver tout de suite en duo avec sa grande amie Geneviève Joie, l'épouse d'Henri Dutilleux.
Qui était ma marraine.
Dans Scaramouche de Darius Milhaud. Thank you. Scaramouche de Darius Milhaud par Jacqueline Bonneau et Geneviève Joie. Alors vous me disiez à l'instant, Christian Bonneau, qu'en général, votre mère faisait plutôt la partie aiguë.
C'est ça. Ma marraine, Geneviève Joie, elles étaient très complémentaires. Elles étaient plutôt sur la partie pianistique avec des basses, quelque chose de solide.
Et, ah oui, et votre mère brodait là-dessus.
Toutes les broderies. Et Bernard Gavotti l'appelait d'ailleurs, Jacqueline, vous êtes une fée. Tout ce qui est en dentelle, même, elle était merveilleuse dans Mozart et tout ça, dans l'aigu, voilà.
Bah, très sympathique d'ailleurs, Geneviève Joie, j'ai eu la chance de connaître un petit peu. Mais alors vous, c'était carrément votre marraine.
C'était ma marraine.
Et ça montre
Mantel,
que les milieux de la musique étaient très proches, parce que vous êtes le fils de Paul Bonneau, qu'on associe à la musique légère, mais qui lui-même connaissait fort bien Henri Dutilleux. Bah, ils avaient étudié ensemble.
Ils étaient dans la même classe au conservatoire.
Donc vous avez très bien connu Henri, vous aussi.
Ben Henri, bien sûr, il venait à tous mes anniversaires. Voilà. Bien sûr. J'ai même une photo à Megève ou à Saint-Gervais où je suis sur une luge avec Henri.
Ah voilà.
Je me rendais compte.
Mais il est vrai qu'Henri Dutilleux, d'ailleurs, avait beaucoup de goût pour des formes de musique très diverses. Et je suis sûr qu'il aimait aussi la musique légère.
Mais il en a écrit au début.
Il en a d'ailleurs écrit pour la radio. Ouais. Alors, revenons à votre père, Paul Bonneau, Christian, et peut-être pour évoquer un peu d'où il venait. Il est né à Moret-sur-Loing.
Près de Fontainebleau.
Près de Fontainebleau, d'une famille qui faisait quoi?
Mes grands-parents, quand il avait 4 ans, c'est une réponse indirecte. On déménageait pour Évreux, en Normandie, et à Évreux, mes grands-parents paternels avaient un magasin de musique qui existait encore jusqu'à il y a 15 ans, qui s'appelait à Sainte-Cécile. Mais
donc il a vraiment grandi dans un bar musical.
Mes grands-parents étaient musiciens, donnaient des cours de piano, de solfège, et même mon arrière-grand-père jouait déjà du piston.
Ah voilà, oui, donc c'est une vraie lignée, comme les Bach ou les d'autres. Voilà. Christian Bonneau, donc ils se sont installés à Évreux. Et comment est-ce que le petit Paul a décidé de pousser les études sérieuses jusqu'au Conservatoire de Paris, ce qui était quand même très, très prestigieux pour un enfant qui aimait la musique. Mais il est arrivé à quel moment?
Je crois qu'il a été repéré lorsqu'il a composé une cantate qui a été interprétée à Évreux. Ouais. Et il y avait dans la chorale le grand-père de Jacques Dutronc.
Ah bon,
qui dirigeait la chorale d'Évreux. Il y avait ma mère au piano, mon père alors qui arrivait à peine avec ses petites jambes à atteindre le pédalier de l'orgue. C'était sa cantate. Et ça a été repéré par Marguerite Long, par Henri Busser, par Jean et Noël Gallon et par Maurice Duruflet.
Voilà, qui ont été les maîtres de votre père, on peut dire, Duruflet et les deux frères Gallon,
Jean,
grand professeur du conservatoire.
Jean et Noël Gallon, tout à fait, oui.
Alors à ce moment-là, on peut supposer que Paul Bonneau ne pensait pas spécialement qu'il s'orienterait vers la musique légère, il voulait simplement être compositeur.
Oui, compositeur, je pense, oui. Peut-être chef d'orchestre. Je ne connais pas tout, je connais beaucoup, mais je ne peux pas répondre à tout.
En tout cas, il y a un certain nombre d'œuvres qui témoignent de ces débuts d'un jeune compositeur moderne de cette époque des années 40. Il y a notamment un fameux concerto pour saxophone.
Ah, il y a des pièces pour saxophone très importantes qui sont toujours jouées actuellement dans le monde entier et sont données dans les concours. Et à Pierre Perret.
Elles ont été écrites pour un grand saxophoniste d'ailleurs.
Ah, elles ont été écrites pour Marcel Mull.
Voilà.
Pierre Perret. Jouait du saxophone. Ouais. Et dans son livre, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un.
Ah oui, il viendra bientôt ici même, alors on en
au
parlera.
Cinéma. Il dit dans son livre que jouer les pièces pour saxophone de Paul Bonneau, c'était pas de la tarte, il fallait se cramponner.
Ah ben voilà. Et puis, concerto pour saxophone et aussi une rhapsodie pour piano et orchestre.
Absolument. Il y a aussi une pièce ouverture pour un drame. Mais ces pièces de cette époque-là étaient très, très sérieuses. Pas du tout musique légère. Très symphonique. Les harmonies étaient celles qu'on utilisait beaucoup au début du siècle. C'était pas encore la musique dodécaphonique.
Non,
dissonant, c'était très sonant, mais
la musique moderne, stravinskienne et prokofievienne,
c'est ça, très lourd, très riche, très très fort, très orchestré. Oui.
On va l'écouter justement cette rhapsodie pour piano et orchestre. On va en écouter un extrait. Et c'est l'occasion de retrouver vos parents ensemble.
Voilà, ça m'avait beaucoup ému. C'est un 78 tours que j'ai réédité que j'ai restauré, et on entend mes parents ensemble.
Votre père dirige, il a composé, et c'est Jacqueline Bonneau qui est au piano.
Voilà. Thank you.
La Rhapsodie pour piano et orchestre de Paul Bonneau, interprétée donc au piano par Jacqueline Bonneau avec son mari qui dirige cette œuvre du jeune compositeur Paul Bonneau. Ouais. Donc là, on est dans ces années de fin de conservatoire pendant la guerre, je suppose.
Je vais dire une phrase émouvante, Bonneau, c'est que quand des parents se séparent, c'est une douleur pour les enfants, je ne suis pas le seul. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, je suis content à travers cette œuvre. Je regroupe mes parents, je les remets ensemble. C'est très bien, c'est une vengeance.
Cette œuvre, vous avez noté, en tout cas, on y reviendra, mais vous vous occupez beaucoup de toutes ces archives familiales, et donc cet enregistrement avait été réalisé salle Erard, qui était le grand lieu des enregistrements de l'époque.
Hein. Ouais. Eh bien, j'y suis retourné il y a quelques années parce que j'étais dans une petite rue, la rue du Mail. Ouais. Qui est près de l'ancien siège du Figaro. Je vois une personne qui apparemment avait toutes les clés. J'ai expliqué qui j'étais. Et je lui dis, mais mon père enregistrait Salle Erard dans les années 40. C'était où? Bien, mais monsieur, c'est une salle classée monument historique. On n'a pas le droit d'y aller. Elle m'a ouvert. Et je me suis retrouvé dans une immense salle, dans le silence, parquetée. J'avais les ondes et les fantômes. J'étais pétri d'émotions. Ça a été un moment où le temps s'est arrêté. J'étais là où papa avait dirigé. Quelques décennies avant.
Vous nous mettez
et
en
elle
appétit,
m'a ouvert hein. cette, elle ah m'a oui, ouvert cette,
envie
cette,
d'y
cette
aller,
salle.
Là.
Ah oui, c'était un grand moment, ça. Je m'y attendais pas. Ça sentait à la fois la cire, les vieilles choses. C'était un grand moment, ça.
Ouais. Alors, voilà, espérons qu'on aura l'occasion de revoir cette salle Erard. En tout cas, c'est à ce moment-là, donc à la fin de la guerre, que votre père, Paul Bonneau, est entré à la radio. Oui. À l'époque, c'était la RTF, c'était pas encore l'ORTF, ni même,
même
Radio
pas si
France.
C'était même avant la RTF.
Avant la RTF. Ah, ouais. Alors, il est entré dans quelles conditions? Pour faire quoi?
En 1944, donc, il avait un accord contractuel sur 30 ans, jusqu'en 1974.
Pour 30 ans?
Je crois qu'il a enregistré et ou dirigé 1200 émissions.
De musique légère.
Ouais. C'était deux émissions par semaine avec 55 musiciens. Ouais.
Alors, il faut dire, à l'époque, donc, la radio naissante est dirigée par des grandes figures comme Henri Barrault, bientôt Henri Dutilleux, Marius Constant qui vont arriver,
bien
etc.
Sûr.
Et votre père, donc, lui, est chargé de quoi? De fonder ou de reprendre un orchestre de musique légère?
Je ne réponds qu'aux questions dont je connais la réponse, je ne mentirai pas. Donc je ne sais pas, Benoît, je ne sais
non,
pas.
Non, mais il prend en charge l'orchestre de musique légère, en tout cas.
Oui, mais il y a également Valberg qui dirigeait parallèlement.
Oui. Oui.
Et il fait propre.
Donc il devient un des grands chefs de
oui,
musique légère,
fait, oui.
qui était une activité à ce moment-là très importante à la radio.
Ah, très importante. Et je crois qu'il était le chef de file, mais bon, je n'ai pas trop de détails, mais en tout cas, voilà.
Donc des émissions toutes les semaines.
Deux par semaine. Oui.
Deux par semaine.
Deux par semaine.
En public, en direct.
À la fois en direct, pas toujours en public, mais il y avait des émissions à Bruxelles, à Stuttgart, à Berlin, à Londres, à Cologne, à Hambourg, à Bruxelles. Voilà, enfin, j'ai déjà dit Bruxelles. Donc, voilà.
Alors, ce qui est frappant dans ces émissions, dont on a conservé quelques archives, heureusement, grâce à Lina, c'est qu'aussi, c'est toujours de la musique légère, mais c'est un mélange. Il y a de la musique vocale, il y a des œuvres symphoniques légères,
lyrique.
Il y a des créations, il y a des reprises, il y a des arrangements. C'est-à-dire, c'est la composition d'un programme aussi.
Oui, mon père s'attachait à faire un programme extrêmement varié,
voilà.
Agréable à l'écoute, en tenant compte des formations, de ne pas mettre trop de vocaux à la suite, d'alterner vocal, orchestral, de tenir compte des tonalités pour faire un programme frais et agréable à l'écoute.
Voilà, bah là j'ai un programme sous les yeux, par exemple, de 1953, décembre 53.
Oui.
Alors ça commence par Divertissement pour orchestre de Jacques Ibert, puis une berceuse chantée par Jacques Janssen, puis le quatuor de flûte Roger Bourdin, puis Janine Michaud qui vient chanter une mélodie de Reynaldo Hahn, tout ça orchestré, etc. Voilà, c'était l'esprit de ces programmes avec de très grands artistes. On va en écouter, on va replonger dans le passé.
Merci. Et le chef du service de musique légère à cette époque-là était Monsieur Bervilly.
Oui, Édouard Bervilly.
Et ensuite, ça a été Pierre Petit. Voilà, etc.
Voilà, et qui passait aussi beaucoup de commandes, évidemment,
aux
compositeurs. Alors, on va retrouver donc une de ces émissions de Paul Bonneau, décembre 1953. On va écouter d'abord l'annonce, le générique.
Ah, ça va m'émouvoir grandement. Ça s'appelait Harmonie, son générique. Ouais.
Voilà. Et tout de suite après, le merveilleux Boléro bleu avec l'orchestre donc de Paul Bonneau et le quatuor de flûte de Roger Bourdin.
Mesdames, messieurs, nous vous présentons un concert donné sous la direction de Paul Bonneau avec le concours de Janine Michaud, de Jacques Janssen, et du quatuor de flûte Roger Bourdin. Mise en onde musicale, Michel Philippot. Par le quatuor de flûte Roger Bourdin, écoutons Boléro bleu de Bob Astor et Roger Bourdin.
Voilà, c'était comme ça les concerts de musique légère à la radio dans les années 50, avec notamment ce Boléro bleu joué par Roger Bourdin et l'orchestre sous la direction de Paul Bonneau. C'est amusant d'ailleurs, Christian Bonneau, parce que alors tout de suite vous dites ah ça c'est mon père qui a orchestré,
oui,
etc. Vous connaissez des choses
dans l'écriture des cordes et le contrepoint. Bah, le contrepoint c'est un mot compliqué, mais ça consiste quand la mélodie s'arrête ou quand le chanteur s'arrête à ce que l'orchestre entre guillemets bouche les trous. Ouais. Ça s'appelle le contrepoint. Et là, bah, je suis sûr que ça a été orchestré par lui. Oui.
Ah oui. Bon. Alors, on va y revenir. Vous êtes l'archiviste hein, de la mémoire de votre père. Ça, c'est, en tout cas, c'est une archive de l'INA. On en a d'autres concerts de ce genre que je vais essayer de vous faire
j'ai
entendre
pas tout ça, moi,
au fur et à mesure. Mais Christian Bonneau, revenons un instant à Roger Bourdin. Tous les auditeurs ne le savent pas forcément. Encore que dans cette émission de musique légère, ils le connaissent parce qu'il en a fait beaucoup. Mais c'est surtout un immense flûtiste, le plus grand flûtiste d'orchestre de sa génération, qui touchait à tous les genres et notamment à la variété à travers le fameux Paris s'éveille de Jacques.
Dutronc.
Quand Jacques Dutronc, avec son producteur Lanzmann, était en studio et qu'ils ont fait Paris s'éveille, et la place blanche à mauvaise mine. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et le producteur dit, mais dis donc, Jacques, il y a deux mesures à compter, on s'emmerde là. Il y a un playback. Et Roger était en train d'enregistrer au studio d'à côté. Et Lanzmann va le voir, dis donc, Roger, là, il faut que tu nous sauves le truc là.
Ouais.
Et Roger avait la grille harmonique, il a
improvisé.
Voilà, et il a croisé Jacques Dutronc dans le couloir après, ils se sont serrés la main.
Alors vous l'avez voilà. Bien connu, c'est un ami de la famille aussi, Roger Bourdin.
Carrément, bien sûr, bien sûr.
Vous avez même écrit une œuvre pour lui quand vous étiez tout jeune.
Oui, quand j'étais à Londres, avec mon épouse Jocelyne, voilà, je cite son prénom quand même.
Ouais.
J'ai composé une œuvre pour
deux
flûtes et clavier, gymnoflûte, oui. Et j'ai un enregistrement où Roger joue les deux flûtes en re-recording, donc une première puis une seconde au casque. Ouais, oui.
Voilà, le grand Roger Bourdin, en tout cas, on ne se lasse pas de réécouter ses enregistrements, surtout quand c'est ici avec Paul Bonneau, votre père. Oui. Alors, donc, on a vu cette première partie, le jeune compositeur écrivant des œuvres symphoniques, ensuite le grand chef de la musique légère à la radio, et puis, assez rapidement, votre père, évidemment, s'est aussi tourné vers la musique vocale, et notamment avec Raymond Legrand, qui lui a un peu mis le pied à l'étrier comme arrangeur.
Alors, hein. Raymond Legrand a mis le pied à l'étrier de mon père pour travailler avec Jacques Elian, avec Simone Langlois, avec Jacqueline François,
voilà.
Différentes chanteuses.
Comme chef d'orchestre et arrangeur.
Comme tout à fait, oui, oui, absolument, oui. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est mon père qui a mis le pied à. C'est Raymond Legrand qui a donné un coup de pouce carrément à mon père. Et quand Michel Legrand a passé son concours d'harmonie au conservatoire, ouais. Ça s'appelait une mise en loge,
ouais,
c'était
sûr.
Sur un texte donné de Paul Bonneau.
Ah bon ?
Et je me souviens d'avoir été chez Michel Legrand avec mon père en 1982, et quand mon père est entré dans la pièce, il y avait Michel qui était là, qui allait partir aux USA pour enregistrer la bande sonore du James Bond Jamais Plus Jamais, que Sean Connery a refait en 83.
Ouais.
Et mon père a dit, Michel, vous vous rappelez ? Ah oui, Paul, mon texte d'harmonie. Donc il y a une symbiose Bonneau-Legrand, marrant.
Legrand. Il y a eu aussi Bonneau-Francis Blanche, même.
Oui, mon père a écrit une chanson avec Francis Blanche, mais je ne sais pas ce que c'est, ni où elle est.
Bonneau-Annie Cordy.
Annie Cordy a été dans beaucoup d'opérettes avec Luis Mariello, donc on va arriver au domaine de l'opérette.
Alors on va s'arrêter.
Annie Cordy appelle mon père Popol.
Popol.
Oui, elle l'appelle Popol.
Ah, on la salue, la chère Annie Cordy, qui nous écoute sûrement. Mais on va écouter, justement, alors dans des arrangements de musique chantée, là, Paul Bonneau. J'adore cette comédie musicale américaine, Nono Nanette,
oui.
Version française, enregistrée et arrangée par Paul Bonneau en 1954. C'est une pure petite merveille.
Oui, ça s'était donné non pas au Théâtre du Châtelet, mais à Mogador.
À Mogador. C'est une œuvre du répertoire de Mogador. Et là, on va écouter donc l'orchestre Paul Bonneau avec la voix irrésistible de Liliane Berton.
Non, non, Nanette, c'est jour et nuit le refrain qui me poursuit. Non, non, Nanette, mon grand plaisir a réfréné mes désirs. Bien sûr, tout me sera permis lorsque j'aurai des cheveux gris. Mais pour l'instant, c'est tout le temps. Non, 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 non.
Il a l'air vexé, nous ne voulions pas l'offense, et voudra-t-il jamais nous excuser?
Qu'il boude après tout,
il doute de vous.
Je n'ai rien fait pour le pousser à bout.
Songez que d'un faux mouvement, parfois vos petits innocemment blesser un cœur très profondément.
Pourquoi me gronder et me sermonner? Cela va donc encore recommencer. Non, non, Nanette, c'est jour et nuit le refrain qui me poursuit. Non, non, Nanette, on prend plaisir à réfréner mes désirs. Bien sûr, tout me sera permis lorsque j'aurai des cheveux gris. Mais pour l'instant, c'est tout le temps. Non, 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 Nanette, c'est si bon de faire ce qu'on veut. Je me laisserai repousser les cheveux, j'aurai les robes les plus jolies.
Nanette, attention, pas trop d'ambition.
Je ferai toutes sortes de folies. je matcherai Suzanne Lenglen, je conduirai ma Citroën. Et si tout cela ne suffit pas,
mais la parole, elle devient folle,
je deviendrai vedette de cinéma. Non, non, Nanette, c'est juré ni le refrain qui me poursuit. Non, non, Nanette, au grand plaisir, à réfréner mes désirs.
J'adore ce mélange tellement élégant du style comédie musicale de Broadway avec le bel art du chant français de Liliane Berton. Tout ça arrangé merveilleusement par votre père Paul Bonneau, Christian Bonneau. Alors on en vient donc on a parlé de la musique légère à la radio. L'autre grand titre de gloire, si l'on peut dire, devant la postérité de votre père, c'est l'opérette, au Châtelet en particulier,
oui, oui.
Où il a été l'un des grands, grands artisans de ce genre, et notamment comme orchestrateur des plus grands succès de Francis Lopez. Comment c'est arrivé, en fait? Parce que, alors, à l'origine, c'était Jacques-Henri Riss, me semble-t-il,
ça. Alors,
qui était
donc
l'orchestrateur.
La première collaboration entre Francis Lopez et mon père, c'était sur La Belle de Cadix,
oui,
qui avait été pour tout ou partie arrangée par Jacques-Henri Riss, mais qui...
Lors de la création en 1945, donc bien avant,
ça.
Oui.
Il est tombé gravement malade,
oui.
Et donc quand La Belle de Cadix devait être montée, Maurice Lehmann, directeur du Châtelet, a dit « Paul Bonneau, j'ai entendu parler de vous avec vos concertos pour saxophone, etc. Il faudrait que vous nous sauviez la vie parce que Jacques-Henri Riss ne peut pas assumer tout. » Et mon père a orchestré quelques numéros de La Belle de Cadix. Et ensuite, entièrement, toutes les opérettes, que ce soit
notamment le plus grand succès peut-être de Mariano Châtelet, Le Chanteur de Mexico, c'est votre père qui a fait toute l'orchestration.
Toute l'orchestration, ainsi que les finales, les ballets, enfin tout. C'était une collaboration Lopez-Bono.
Alors, et derrière tout ça, il y avait aussi Maurice Lehmann, qui était le directeur du Châtelet, qui avait un peu engagé votre père d'une certaine
façon. Très grand directeur. Donc, il y a eu donc Le Chanteur de Mexico avec Luis Mariano. Ensuite, La Toison d'Or avec André Lassari. Ensuite, Méditerranée avec Tino Rossi. Après,
Le secret de Marco Polo.
Le secret de Marco Polo avec Mariano.
Prince de Madrid.
Et Le Prince de Madrid avec Mariano. Et puis ensuite, Mariano nous a quittés.
Voilà.
En 1970.
Ça, c'est pour la partie, donc, Lopez. Mais il y en a bien d'autres. On va évoquer après les autres orchestrations. Mais alors, il aimait ça, votre père, faire de l'opérette? Ou c'était plutôt une activité, je dirais, professionnelle, un peu alimentaire, comme ça?
Je ne connais pas la réponse à cette question. Mais il a fait 18 opérettes. A priori, il aimait ça. C'est vrai qu'il a, entre guillemets, un peu abandonné la musique, entre guillemets, sérieuse,
ouais,
pour se diriger vers l'opérette. Mais enfin, il fallait les orchestrer, les ouvrages, les ballets, les harmonies étaient là, tout était là.
Il s'entendait bien avec Lopez et Mariano, qui étaient des vedettes
bien
de
sûr.
Premier plan, alors que lui-même, Paul Bonneau, était toujours un peu un homme de l'ombre, même si son rôle était essentiel.
Francis Lopez et mon père travaillaient. Mon père descendait à Cannes chez Francis.
Ouais.
Et donc, ils étaient tous les deux au piano.
Ça se passait comme ça, ils travaillaient comme ça, au piano.
Les mélodies de Lopez, on a toujours tendance à dire que c'est l'orchestrateur qui faisait tout. C'est absolument faux. Bon, il est primordial, mais les mélodies sont de Lopez. Et donc, quand un peintre en bâtiment repeint un mur, s'il siffle Mexico, il va chanter la mélodie de Lopez.
Ouais, bon, c'est vrai,
c'est vrai que les harmonies, les contrechants qui parfois rentrent même dans la mémoire collective de l'orchestre, c'est vrai que la couleur, l'atmosphère, les finales, ça sonnait et c'était un tandem qui était carrément bien. J'ai une anecdote pour Mariano. C'était au Châtelet en 67. C'était la première du Prince de Madrid. Et j'étais dans les coulisses du Châtelet et mon père me dit: tu veux voir Mariano? Je dis, tu parles. et je revois Mariano, c'était 3 ans avant sa mort, habillé en prince de Madrid, et on monte dans sa loge, j'étais ému et en admiration, et le valet de Mariano lui mettait au fond de la gorge avec une espèce de poire, un espèce de sirop pour vaporiser les cordes vocales. Et mon père dit, ça va Louis? Et Louis répond à mon père, Paul, je suis fatigué. Et c'était tous les soirs, le Châtelet. Et la Caravelle d'Or a été, je suis désolé de dire ça, l'opérette de trop, parce que tous les soirs, il fallait le faire. Et les matinées aussi. Ça a tué Mariano. Il est mort d'un cancer du foie. La Caravelle d'Or était l'opérette de trop. Il fallait qu'il s'arrête après le Prince de Madrid pour se reposer. Voilà.
Votre père, donc, orchestrait les succès de Lopez. Il les dirigeait pas dans la fosse.
Non, mon père a jamais dirigé au Châtelet. Il y a eu Félix Nuvelone.
Voilà, qui était le chef de l'époque.
Et ensuite Jean-Claude Casadesus.
Et Jean-Claude, le cher Jean-Claude Casadesus, qui a commencé comme ça aussi, un peu sous la houlette de Paul Bonneau.
Au Châtelet, c'était quand, parce qu'indépendamment de Lopez, mon père a orchestré, entre autres opérettes, l'Auberge du Cheval Blanc. Et quand elle a été donnée au Châtelet, c'était Jean-Claude Casadesus qui dirigeait extraordinairement bien. Voilà.
Alors, on va retrouver tout de suite Luis Mariano dans Le Prince de Madrid. J'aurais pu passer le Rossignol de Mexico, mais tout le monde connaît.
Et vous aimez... de Bézambo, oui.
Oui, mais du chanteur de Mexico. Ouais. Mais vous aimez beaucoup cette terre-là. D'abord parce que, c'est du grand mélo, mais il y a aussi une qualité d'orchestration où vous trouvez la patte de votre père.
Alors, c'est un extrait du Prince de Madrid. Ça s'appelle Toi, mon seul amour. Et Luis chantait ça en duo. Et sur scène, il était à 20 cm de la comédienne et de sa partenaire. Je crois qu'elle s'en est souvenue toute sa vie. Et c'est un morceau qui, par les harmonies, les contre-champs d'orchestre, l'atmosphère, c'est du Lopez Bonneau à 300%. Ça résume toute cette collaboration par ce qu'on ressent. Voilà.
Toi, mon seul amour, donné tout le bonheur du monde. Toi, depuis toujours, je t'ai cherché sur la terre. Première fois que j'aime avec ferveur et que je m'aperçois que je possède un cœur. Dans une nuit sans fin, j'allais les yeux fermés, je me repose enfin dans la douceur des mers. Tu m'as donné tout le bonheur du monde. Toi, depuis toujours, je t'ai cherché sur la terre. Vers une joie profonde, tant que je vivrai, je t'aimerai.
Jamais. 1967, Luis Mariano.
J'ai la chair de poule, Benoît.
Le prince de Madrid, Christian Bono, à la chair de poule.
Ah ouais, ouais.
En écoutant la voix de Luis Mariano et les orchestrations de Paul Bono, votre père dont nous parlons aujourd'hui, qui a orchestré, alors donc, on l'a dit, hein, tout Lopez, mais aussi beaucoup d'autres opérettes. Nono Nanette, on vient de l'entendre. L'Auberge du Cheval Blanc, c'était peut-être la première. Valse de Vienne, également, autre grand succès. Et puis alors, il y a aussi toute cette aventure de Rose de Noël en 1958.
Une histoire incroyable.
Oui. L'œuvre posthume de Franz Lehár.
C'est ça.
Alors, vous avez un document, on va l'écouter peut-être.
C'est mon père qui parle, là, c'est encore mieux.
On va le laisser raconter lui-même.
Mon prénom Christian est tellement modeste à côté du sien.
C'est l'ami Jacques Rouchouz, qui s'est longtemps occupé fort bien de l'opérette dans cette maison, qui interviewe donc ici Paul Bono à propos de l'orchestration et de tout le montage de Rose de Noël.
Paul Bono, je crois que nul n'est mieux placé que vous pour nous raconter la naissance de l'orchestration. Alors je voudrais que vous nous racontiez comment ça s'est fait.
À l'origine, c'était des musiques que monsieur Carl Christophe et le professeur Recaille, qui était un collaborateur de Franz Lehár, ils avaient fait une petite comédie musicale pour la radio. Je me souviens, c'était pour la radio. Et ça a intéressé Maurice Lehmann, directeur du Châtelet, qui était un merveilleux directeur. Et Maurice Lehmann a demandé à Raymond Vinci de faire une véritable opérette qui puisse être jouée au théâtre du Châtelet.
Parce que Lehár était mort depuis une dizaine d'années.
Oui, c'est ça. Mais moi, je ne devais pas travailler sur cet ouvrage, puisque en principe, c'était le professeur Recaille qui devait faire toute l'orchestration. Mais le professeur Recaille n'a pas eu l'autorisation de sortir de Hongrie. Et alors, monsieur Lehmann s'arrachait les cheveux parce que ça devenait dramatique. Et un jour, je reçois un coup de fil de Maurice Lehmann qui me dit, Bono, absolument, je vous vois toute urgence. Voilà, je vais vous dire exactement les paroles de Maurice Lehmann. Je suis dans la merde, car le Rose de Noël est programmé pour le 19 décembre. Il n'y a rien écrit sur le plan musical. Alors, accepteriez-vous de travailler pour cet ouvrage? Je dis d'accord. Oui, d'accord. Alors, il est parti, et il a été donc rencontré la sœur de Lehár, qui habitait la Suisse à ce moment-là.
C'était son héritière.
Ouais. C'était son héritière, et il s'est mis d'accord avec elle. Ouais. Et 48 heures après, il m'a rappelé en me disant, Bono, allez, je compte sur vous. Au boulot, il faut qu'on puisse commencer d'ici 8-10 jours à répéter les premiers airs. Ça. Et puis, il y avait les lyriques, tout ça. Les lyriques étaient également de Raymond Vinci. C'est le livret, puis les lyriques de Raymond Vinci. Et voilà. Alors, c'était un travail... c'était de la folie. Car je peux vous dire que je suis resté pendant 3 semaines chez moi, sans mettre le nez dehors. Je suis même resté en pyjama. Vous dire à quel point c'était de la folie. Je travaillais 15-16 heures par jour pour arriver à ce que cet ouvrage soit prêt. Et on est arrivé où ?
Vous livrez un assaut à ma vertu.
Mais l'ennemi n'est pas encore battu.
Il est même de temps bien résisté.
Oui, mais quelle victoire à remporter!
Mais si je ne veux pas capituler,
je me verrai contraint de reculer.
Et pour signer la paix, que voudrez-vous?
Devenir votre époux.
Il est des choses qui sont faites pour aller ensemble, comme la rose avec le papillon, ou comme la bergère avec...
Le tambour et le sang du clairon.
Ce qui va pas en même temps, c'est l'automne avec le printemps. Vous êtes le papa du régiment.
Vous seriez la maman de mes enfants.
Vous devez à vos hommes tous vos instants.
Mais j'aurai pour ma femme encore du temps.
Si je n'accepte pas de dire oui,
je vous ferai la cour toute la vie.
Alors vous me suivrez partout, partout,
comme un petit toutou.
Il est des choses qui sont faites pour aller ensemble. Du bon vin avec un bon repas, ou un peu de kirsch avec de l'ananas.
La brioche avec du chocolat.
Mais en tout cas, avec cette brioche-là, vous serez chocolat.
Rosine Brédy et Dominique Tirmont sous la direction de Félix Nouvelhonne, justement, oui. Dans Rose de Noël. Alors, je vous lis exactement l'intitulé, opérette en deux actes de Raymond Vinci d'après Carl Christophe, musique recueillie et adaptée par le professeur Recaï et Paul Bonneau, représentée au Châtelet le 20 décembre 1958 avec le succès qu'on connaît. Christian Bonneau, on va encore évoquer quelque chose d'autre de très important, je crois, dans l'histoire de votre père, à ses yeux en tout cas, et dans l'histoire aussi de la radio, c'est la création du groupe vocal Les Djinns, auquel j'avais déjà consacré une émission, et dont il était particulièrement heureux et fier, je crois.
Et est-ce que, je vous une parenthèse, est-ce que vous prévoyez de diffuser la voix de mon père qui explique la création des Djinns?
Non, vous allez
alors je le fais moi.
Oui.
Bon, ok. Donc, les Djinns étaient issus de la maîtrise.
Voilà,
de la RTF, voilà.
Quand les enfants devenaient des adolescents, voilà. En l'occurrence des adolescentes, on cherchait en fait à leur faire poursuivre le métier.
C'est ça. Pardon, je vous ai coupé la parole.
Non, c'est vous.
Et les concerts de la maîtrise comportaient des œuvres classiques et parfois on y adjoignait un artiste de variété. Il n'y avait aucune compatibilité, donc Radio France a dit à mon père « Est-ce que vous pourriez faire quelques orchestrations à trois voix égales ?» Donc les Djinns, c'était alti dans les basses, mezzi et soprani. Bon, c'est alto, mezzo, soprano au pluriel, voilà. Donc des arrangements à trois voix égales, mais enfin c'était souvent subdivisé. Il y avait peut-être beaucoup plus de voix que juste trois. Voilà. Mais donc, et puis ça a plu et on lui a dit, mais Monsieur Bonneau, on pourra en faire d'autres. Et ensuite, la firme Ducret et Thompson, devenue Pathé Marconi et ensuite EMI. On créé en 59 le groupe Les Djinns avec mon père et ils ont été grand prix du disque immédiatement. Premier album, le premier 45 tours, c'était avec Il fait des bons, Gilbert Bécaud, Les Marchés de Provence, Marie, il y a eu le grand prix du disque et ils ont enregistré en 3 ans 75 titres avec Les Djinns.
Voilà, donc une partie a d'ailleurs été rééditée récemment par Marianne Mélodie.
Tout à fait, ouais.
Et alors c'est somptueux que souvent comme arrangement, je pense que là c'est encore le travail de Paul Bonneau qui veillait de près sur chacun des enregistrements.
Bien sûr.
Je propose qu'on écoute C'est si bon.
Ah,
voilà,
ouais.
Grand succès.
C'est un bon choix, Benoît.
Parce que c'est vraiment un très bel enregistrement des Djinns. D'ailleurs, on reviendra ensuite ensemble sur le compositeur
bien
de cette
sûr.
Chanson,
ouais.
Henri Betti, autre proche de votre père. Mais on va d'abord écouter Les Djinns donc dans C'est si bon.
1960.
Oh, C'est si bon, c'est si bon, c'est si bon, c'est si bon, c'est si bon,
c'est si bon,
c'est si bon,
c'est si bon,
c'est si bon, c'est si bon, c'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue.
Voilà un fils qui marche sur les traces de son père, Christian Bonneau, parce que ça, c'est votre groupe, après les Jeans.
Oui, un groupe que j'ai créé avec des amis de Choisy-le-Roi en 1965. On s'appelait les Bones, B-O-2-N.
Et vous existez toujours, comme les Rolling Stones.
On n'existe plus, mais on a fêté nos 50 ans entre amis, nos 40 ans il y a 10 ans avec un spectacle, et la semaine dernière, nos 50 ans. Oui.
Voilà.
Mais ce sont mes jeans à moi, hommes.
Voilà. Vous avez un autre groupe en plus.
Ah oui, maintenant je suis dans un groupe de rock octophone, où on s'attache à reprendre des titres du rock des années 60 et 70, et on a un slogan qu'on a d'ailleurs déposé à la SACEM et à l'INPI: si vous ne les avez jamais vus, venez nous voir. Voilà. Et là, c'est du rock. Et là, ça aurait amusé mes parents.
Alors, Christian Bonneau, ça, on en reparlera.
Octophone, je ne sais pas si j'ai dit le nom.
Octophone.
Ouais. On est 8 octophones.
Le compositeur de ces six bons, Henri Bétis, c'est un autre proche de votre père. Hein.
Très, très proche. C'était un ami intime.
Oui.
J'ai aussi, bien sûr, très bien connu Henri, qui a dû me connaître quand j'avais 2 ans.
Ouais. Ils ont monté ensemble une maison d'édition.
Oui, c'est vrai. Ils ont monté en 1956, dans l'immeuble où il y a la salle Gaveau, les disques Variance, étaient étoiles record, oui.
Ah oui.
Je me souviens de ça.
Donc vous l'avez vu aussi souvent, Henri Bétis, auquel j'espère bien consacrer d'ailleurs prochainement une émission, parce que c'est une grande figure aussi.
Et je suis très ami de son fils, François Bétis.
Voilà, qu'on salue. Alors Henri Bétis, ce sera un prochain programme sur France Musique. Il faut dire que ils ont également, Bonneau et Bétis, étaient associés dans un certain nombre de musiques de films, comme Honoré de Marseille, parce que votre père était aussi un compositeur de musique de films. Autre pan de son activité.
Mon père a composé, pour être précis, la musique de 51 grands films.
51.
Et effectivement, Honoré de Marseille, avec Fernandel, c'était musique de Henri Bétis, arrangement de Paul Bonneau, et quelques titres composé ensemble. C'est un film qui passe souvent.
Mais on lui doit aussi Fantomas contre Fantomas, Les Moineaux de Paris avec les petits chanteurs à la Croix de Bois.
Et Monseigneur Maillet, Napoléon de l'Aiglon, il y a 51 films. Et le dernier, un téléfilm, c'était avec Yves Régnier, Les Globetrotters.
Les Globetrotters. Et puis alors justement, à propos de télé, votre père a également écrit une musique qui s'appelle Fête de Beaux Rêves, qui est liée à l'histoire de la télévision.
Alors, Fête de Beaux Rêves, oui, c'est un titre, c'est une commande qu'on lui a faite. Ça a été en fait avant le Bonsoir Musical, où il y avait les images de Folon. Oui. Juste avant, ça a duré 7 ans, c'était le Bonsoir Musical d'Antenne 2.
bonsoir musical d'Antenne 2, toujours oui. Une musique de Paul Bono. Ce n'était pas l'occasion de dire bonsoir, Christian Bono. Mais
oui, c'était pas France 2, c'était effectivement Antenne 2 à l'époque. Voilà. Oui.
L'occasion de vous dire merci pour votre aide très très précieuse dans la préparation de cette émission. Vous, oui. vous gardez toutes ces archives chez vous, vous les numérisez peu à peu.
Oui, j'ai l'avantage d'être le fils de Paul Bono en étant de la profession. Oui. Et je voudrais juste dire que je suis également à la SACEM compositeur-auteur et j'ai été éditeur pendant 35 ans et j'ai passé mon veston de gérant à mon fils Sébastien, ouais. qui a 44 ans.
Donc c'est une histoire de famille qui continue.
Voilà. Et mon autre fils, Julien, qui lui a pas le nom de famille pour rien, il est extrêmement musicien, donc il y a une compatibilité entre Julien, qui a 42 ans, qui compose, et Sébastien, qui dirige avec brio les éditions musicales.
Bah, bravo.
Voilà. Donc, j'ai voulu faire un coup de chapeau à mes fils.
Familiale.
On continue, il faut, c'est important.
Ouais. Et autour notamment donc de la mémoire de votre père, qui est leur grand-père, Paul Bono.
Voilà.
Qu'on réécoutera souvent sur France Musique. On aurait pu écouter parmi ses succès, mais c'est un grand poème symphonique. Alors, je crois que ce sera une autre fois. Oui. Un Français à New York.
Un hommage
à George Gershwin, oui. qui lui était particulièrement cher, qui est un vrai poème symphonique de grande qualité. On va finir plutôt par une œuvre de musique légère. Ça s'appelle Ping Pong.
Je suis très heureux d'avoir été invité. Mais je reviens quand vous voulez.
Hein. Ah ben,
je vous suggère de préparer une seconde émission. Merci beaucoup, Benoît.
Merci, Christian.
Et
Bono.
À ceux qui travaillent avec lui, Twad, etc. Voilà. Merci.
Merci à vous. C'était Ping Pong, on entend le rebond des balles avec les pids dans cet enregistrement de l'Orchestre Symphonique Léger de Paris sous la direction de Paul Bono.
Last laugh now.
They All Loved, un morceau de George Gershwin. George Gershwin qui était si cher au cœur de Paul Bonneau dont nous avons parlé ce matin. Et puis je vous ai dit que de temps à autre, je vous proposerai désormais d'écouter quelques-uns des morceaux de soul, de pop, de rock qui ont enchanté mes jeunes années et qui ont aussi éveillé mon amour de la musique, même si ça paraît parfois d'un peu mauvais goût. La semaine dernière, c'était Barry White, évidemment, que j'aime tout particulièrement. Aujourd'hui, c'est Led Zeppelin, le premier groupe de rock que j'ai vraiment adoré, et notamment avec un morceau qui vous montrera toute la sophistication de ces musiciens. Vous savez, on parle toujours de comparer les Beatles et les Rolling Stones, mais au même moment, peut-être que les musiciens qui poussent la recherche le plus loin, ce sont ceux de Led Zeppelin autour du guitariste Jimmy Page, qui était un très bon musicien de studio, qui était passionné de musique arabe et qui arrive à faire ce mélange étonnant du hard rock, c'est-à-dire d'une musique lourde, avec une sophistication d'écriture, comme vous allez l'entendre dans cet extrait de l'album numéro 4. Ça s'appelle Four Sticks. C'est un morceau qui est devenu un peu légendaire parce que toute la première partie est à 5 temps. C'est pas si fréquent dans la pop. C'est un peu heurté. Et ensuite arrive une partie beaucoup plus mélodieuse avec les guitares acoustique, je vous dis ça vraiment, à mon sens, c'est du grand art.
Oh,
Un chef-d'œuvre, je vous le dis, avec cette voix d'enfant passage de Robert Plant qui plane avec des mélismes extraordinaires au-dessus de cette sophistication de 5-8 et de 6-8. Ça, ce sont les enchaînements de mesures et cet extrait de Led Zeppelin volume 4, un des albums légendaires de l'histoire du rock. Ça s'appelle Four Sticks.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît. France Musique.
Mes amis du 14, il est temps de retrouver notre ami Martin Péné qui est de retour cette année avec une toute nouvelle rubrique. Bonjour Martin.
Bonjour Benoît.
Heureux de vous retrouver. Alors, je crois que, au fond, comme je sais moi-même de le faire une semaine sur deux, vous allez vous aussi nous emmener, nous promener dans les archives de la radio.
Oui, c'est une nouvelle série de chroniques qui mettra à profit les précieuses archives de l'INA, mais alors dans le domaine de la chanson. Et pour commencer ce feuilleton, eh bien, je voudrais rendre un hommage particulier à Julienne Gréco. Vous vous souvenez peut-être qu'en novembre 2015, j'avais annoncé ici même le début de sa longue tournée d'adieu. Alors elle a triomphé dans les grandes salles parisiennes, un peu partout en région, et puis malheureusement elle a dû annuler des dates pour raisons de santé. Alors, si elle nous écoute, j'aimerais lui dire combien nous l'aimons. Et depuis son tout premier 78 tours sorti en 1950 jusqu'à son dernier titre enregistré, intitulé « Merci », tout simplement, qui date de fin 2015, eh bien sa discographie est impressionnante. Mais alors, au lieu de composer un programme à partir de son intégrale CD, j'ai préféré vous faire découvrir des pépites, des titres pour la plupart inédits qu'elle a enregistrés pour la radio depuis le début de sa carrière. Alors, on replonge en 1952, à l'époque des Feuilles mortes et de Joël et Dimanche, lorsqu'elle participait à une émission « Les surprises de la France » consacrée à Maurice Chevalier et présentée par Jean Nohain. Le célèbre Jean Nohain qui a fait tant d'émissions. Et elle y reprenait un tube de l'opérette Dédé composé par Henri Christinet et créé bien sûr par Chevalier au Bouffe Parisien en 1921.
Et enfin, voyez-vous, les jeunes ont voulu eux aussi rendre hommage à leur grand aîné. Une des plus brillantes vedettes de Saint-Germain-des-Prés, dans quelques heures à peine, dans quelques minutes, on peut le dire, car c'est ce soir même, va s'envoler vers l'Amérique.
Oui, c'est la créatrice d'une belle chanson intitulée « Joël et Dimanche ». Une chanson tout de même assez amère et pas précisément du genre optimiste.
Mais avant de quitter la France, cette vedette vous fait un très grand plaisir. Elle a voulu chanter pour Maurice Chevalier. Et avant de quitter notre pays, une chanson pleine d'optimisme et de bonne humeur. Vous allez entendre le fameux air de Dédé, intitulé « Dans la vie, faut pas s'en faire », chanté par celle qui chante habituellement « Joël et Dimanche ». Voici Juliette Gréco, qui avant de partir pour l'Amérique, nous fait la grande joie de venir chanter une chanson d'un style bien différent. Merci mademoiselle, du grand plaisir que vous nous faites. Et nous sommes heureux que votre dernier message à notre pays, avant que vous vous envoliez pour l'Amérique, soit une chanson optimiste.
Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire. Moi je ne m'en fais pas. Moi je ne m'en fais pas. Moi je ne m'en fais pas.
Nous souhaitons un heureux voyage là-bas. Nous souhaitons que souvent pour vous-même vous chantiez dans la vie, il faut pas s'en faire, comme vous l'avez si bien fait.
C'est vrai que c'est un rapprochement inattendu entre le répertoire de Chevalier et de Gréco, et puis la voix merveilleuse de Jean Nohain, hein, Martin Péné.
Ah bah oui, ça c'était un sacré souvenir. Alors vous connaissez également sûrement la fameuse émission La Joie de Vivre, présentée par Henri Spade dans les années 50, en direct de l'Alhambra de Paris, salle hélas disparue, c'était un immense music hall rue de Malte. Alors le nom subsiste, hein, puisqu'il y a une nouvelle salle qui s'appelle l'Alhambra, beaucoup plus petite, qui est rue Yves Toudic, donc à proximité de l'ancienne. Je voulais quand même le signaler, malheureusement, donc donc le grand Alhambrin n'est plus. Et cette émission était consacrée chaque quinzaine à une personnalité qui elle-même réunissait d'autres invités. Alors dans la joie de vivre du dramaturge Jacques Deval en 1953, eh bien Juliette Gréco a chanté l'adaptation française signée Michel Vauquer d'une très belle mélodie de Kurt Weill, September Song. Initialement composée en 1938 pour le spectacle Knickerbocker Holiday, elle était devenue mondialement célèbre en 1950 grâce à son interprétation dans le film Les Amants de Capri par Walter Huston.
Vous avez maintenant donné de l'émotion à Juliette, juste à point, n'est-ce pas, pour qu'elle aille nous chanter la chanson de septembre de Kurt Weill.
L'automne est entré un soir et tout à coup, il a poussé la fenêtre. Brusquement, le vent souffla comme un fou et des feuilles mortes volèrent partout. J'ai compris que l'été avait pris fin, qu'il faudrait nous quitter le lendemain et pour très longtemps, peut-être. Lorsque septembre vient, j'ai peur de l'automne. Des tristes matins, des soirs monotones, saison des regrets. J'ai peur de l'automne où l'espoir disparaît dans les cœurs inquiets. Sous le ciel triste et lourd, les jours sont plus courts, nuages, orages. Lorsque septembre vient, je me souviens, et dans mon cœur, soudain,
Juliette Gréco dans la chanson de septembre de Kurt Weill. C'était au cours de la joie de vivre de Jacques Deval en 1953. Deval qui avait d'ailleurs écrit aussi avec Kurt Weill les merveilleuses chansons en français de Marie Galante, avant la guerre.
Absolument.
Martin Pémé.
Et Juliette Gréco a maintes fois raconté ses débuts dans la chanson en 1949, placée sous le parrainage de Jean-Paul Sartre. Elle avait alors choisi trois textes que Joseph Cosma avait mis en musique et les a créés au Bœuf sur le Toit. Et parmi ceux-ci, un poème de Raymond Queneau intitulé « C'est bien connu » qui est devenu le célébrissime « Si tu t'imagines » et cette chanson qui a été le porte-bonheur de Juliette Gréco. Et à la radio, elle a eu l'occasion de chanter deux autres poèmes moins connus de Queneau, « Nicolas, chien d'expérience » et « L'homme du tramway ». Et c'est ce dernier, mis en musique par André Pop, que j'ai choisi de vous faire écouter ce matin. Il est tiré d'une émission de 1953, judicieusement nommée « Chanson d'écrivain ».
Cet homme qui marche le long du quai la nuit, le long de la Seine entre Asnières et Courbevoie, cet homme dont l'ombre à chaque instant fuit, suit son chemin droit et sa courbe voie. Cet homme a mal aux pieds, misère, et la fatigue ligote ses épaules. Cet homme danse chacun de ses pas, long comme des nuits d'hiver. Depuis une heure, le train ne roule plus. Cet homme mesure des kilomètres à l'épaisseur de ses semelles. Il marche la nuit dans cette rue. Sa maîtresse l'attend, fille peu respectable. Elle traîne au ruisseau ce repas de boucher et sont en se mesure à sa chambre insatiable qui loge maintenant un homme du tramway. Il doit fuir au matin les yeux fort marmiteux et reprendre la route vers le dépôt sonore. Et pendant que la belle dans le pieu dort encore, il soupire qu'il est doux de se sentir aimé.
L'homme du tramway, parole de Raymond Queneau, musique d'André Pop, une très belle chanson, alors vraiment inédite, hein, de Juliette Gréco, Martin Pennec, vous avez retrouvé dans les archives de la radio, puisque c'est le pari, si j'ose dire, cette année, une fois par mois, vous viendrez nous faire découvrir comme ça des archives, des raretés, des chansons qu'on ne connaît pas. Pourquoi ne l'a-t-elle pas enregistrée, celle-ci d'ailleurs, en dehors de cette émission de 1953, faudra lui demander.
Faudra lui demander, oui, c'est ce que je disais, si elle nous écoute, eh ben je suis content de la saluer. Alors Gréco a parfois repris des chansons du répertoire, je pense à Plaisir d'amour, Le temps des cerises, qu'elle a très souvent chanté en rappel à la fin de ses concerts, ou encore, dans un genre différent, Madame Arthur. Et puis dans les années 60, pour conforter le rayonnement international de sa carrière, elle a consacré tout un album 33 tours aux grandes chansons françaises du XXe siècle, comme Parlez-moi d'amour, L'âme des poètes, Mon homme, Le Duc à boulot et bien d'autres. Mais alors là, nous sommes encore dans les années 50 et on n'en est pas encore là. Elle sort de Saint-Germain-des-Prés et s'impose petit à petit dans le monde de la chanson, notamment lors de son premier passage à l'Olympia en juin 54. Et c'est là qu'elle a créé Coin de rue que lui a offerte Charles Trenet. Et elle voue d'ailleurs à Trenet une grande admiration. Et dans l'album que je citais à l'instant des grandes chansons françaises du XXe siècle, il y a quand même trois chansons de Trenet, ce qui prouve à quel point elle admire Trenet. Et c'est sans doute pourquoi, deux ans plus tard, en 1956, dans l'émission Ping Pong sur Paris Inter, elle a accepté de reprendre Y'a de la joie, chanson dont la création remonte, on le sait, à 1936.
Y'a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, y'a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, y'a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, y'a de la joie. Partout, y'a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, y'a de la joie. Partout, y'a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lèvres. Mon Dieu, miracle sans nom, à la station Javel. On voit le métro qui sort de son tunnel, griser le ciel bleu de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur et à de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la scène à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'ennuyais toute seule dans mon coin. Y'a de la joie. Le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air près d'outrée ou bien le bonjour: pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Mais soudain voilà, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et y'a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, y'a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, y'a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, y'a de la joie. Partout, y'a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, y'a de la joie. Partout, y'a de la joie. Y'a de la joie.
Et voilà, c'était donc Juliette Gréco de Maurice Chevalier à Charles Trenet. Joli sujet inattendu dans cette chanson encore très joyeuse, Martin Péné.
Et donc là, c'est exactement 20 ans après la création. Donc c'est amusant quand même en 1956 d'entendre Juliette Gréco chanter du Trenet.
Vous continuerez, je crois.
Oui, alors le mois prochain,
nous allons avoir
d'autres inédites Juliette Gréco, mais donc un peu plus tard, des années 60, 70, 80. Et donc je tiens à remercier Lina et plus particulièrement Marine Decamp qui va nous permettre de découvrir chaque mois de nouveaux trésors chantés. Et j'ai l'intention également d'aller fouiller un petit peu les enregistrements qui ont été faits en direct dans les cabarets de la rive gauche, parce que là il y a des trésors également, parce que la radio à l'époque se déplaçait beaucoup pour capter des tas de chanteurs et qui heureusement ainsi sont préservés.
Voilà, tout ça est merveilleusement conservé grâce à Lina qui est le partenaire indispensable de cette émission. Merci de le rappeler Martin Péné, je vous dis à bientôt.
À bientôt Benoît.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique Cécile Gissot entourée d'Alexandre Billard, Emmanuel Dupuis, Jean-François Souvili, réalisation Swad Boukorsa. Et la semaine prochaine, je recevrai Pierre Bénichoux, que vous connaissez certainement pour diverses raisons, mais qui est aussi un passionné de chansons. Il viendra nous en parler. Bon week-end à tous.